Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci bien, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient, RFI vous donne la parole dans 30 minutes. Vous le savez, nous sommes vendredi, c'est donc la libre antenne, l'occasion pour vous tous de nous rejoindre, de commenter tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours. Vous nous rejoignez, vous lancez le débat. Aucun sujet n'est tabou, donc profitez-en, appelez-nous 33 9 693 693 70. Vous réagissez aux sujets qui font la une de la presse internationale, des sujets dont on n'a pas forcément parlé dans l'émission. Vous êtes les bienvenus, toute l'équipe vous attend au standard et sur les réseaux sociaux. Nous avons l'œil sur la page Facebook de l'émission et sur le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité. Donc profitez-en. D'abord, votre rendez-vous interactif avec la rédaction de RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Narcisse nous a appelé de Bangui, c'est donc en Centrafrique. Bonjour Narcisse.
Bonjour Juan Gomez.
Vous avez des
questions. Et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous avez des questions concernant votre pays, des questions sur les diamants de Centrafrique.
Oui Juan Gomez, j'ai écouté à travers la radio RFI que la Russie souhaite lever l'embargo sur le diamant centrafricain imposé par le processus de Kimberley. Par rapport à cela, j'ai trois préoccupations. J'aimerais savoir quelle est la procédure prévue pour lever d'un embargo sur le diamant. Et ensuite, si l'embargo est enlevé, ces groupes rebelles qui occupent certaines zones pourront-ils exploiter librement le diamant centrafricain qui s'y trouve ?
Et oui. La troisième... Alors, on va déjà répondre, si vous le permettez, Narcisse, à vos deux premières questions qui sont extrêmement pertinentes. C'est vrai que la Russie veut la levée totale de l'embargo sur les diamants centrafricains. Bonjour Claire Fage.
Bonjour.
Vous présentez tous les jours la chronique des matières premières sur RFI. On peut peut-être rappeler en quelques mots, Claire, ce qu'est le processus de Kimberley mis en place il y a maintenant 17 ans pour mettre fin au commerce illicite des diamants de guerre.
Oui, effectivement, c'est un accord c'est un processus qui intègre les États exportateurs de diamants et importateurs de diamants. L'industrie du diamant est également partie prenante. Il y a aussi des observateurs de la société civile. Et en fait, ils ont décidé d'exclure les diamants du commerce légal quand ils provenaient de zones où il y avait des conflits armés. C'est-à-dire que ces diamants étaient susceptibles de financer la guerre. C'est ce qu'on appelait les diamants de la guerre ou les diamants du sang.
Les diamants du sang, effectivement. Alors, la Centrafrique adhère au processus de Kimberley. En 2013, lorsque la guerre éclate, le pays est suspendu du processus de Kimberley. Plus aucun diamant centrafricain ne pouvait être vendu sur le marché. Je dis ne pouvait plus, puisque trois ans plus tard, le pays est autorisé à reprendre ses exportations de diamants, enfin partiellement.
Oui, effectivement. On a estimé que le gouvernement central de Bangui avait le contrôle d'une partie du pays, donc principalement le sud-ouest. Donc, 5 sous-préfectures ont été autorisées à exporter légalement du diamant. Le reste du territoire était sous la coupe des groupes armés. Donc, oui. On estime qu'à peu près 70 à 80% de la production de diamants part de la Centrafrique de façon complètement illégale.
Alors, la Russie veut lever justement l'embargo total sur ces diamants. Quelle est la procédure prévue, justement ?
Alors, pour statuer sur un pays, il faut une décision par consensus. C'est-à-dire que tous les pays membres, qu'ils soient exportateurs ou importateurs, doivent donner leur accord, en quelque sorte. Donc, il est très peu probable que la Centrafrique soit réintégrée dans ce cadre, d'autant qu'il n'y a eu aucune proposition officielle de déposer auprès du processus de Kimberley, qui est à l'heure actuelle en plénière en Inde, parce que oui. C'est l'Inde qui préside le processus de Kimberley cette année.
Et l'année prochaine, ce sera la Russie.
L'année prochaine, ça sera la Russie. Alors, peut-être que une proposition dans ce sens sera déposée, mais elle n'a à mon avis, aucune chance d'aboutir, parce que ce serait signer l'échec du processus lui-même. Parce que déjà, la société civile est complètement remontée contre le fait que le processus de Kimberley est resté figé sur les diamants de la guerre. La société civile, qui est observatrice, voudrait élargir le concept et interdire tous les diamants qui ont suscité des violations des droits de l'homme, donc viol de femmes, travail des enfants... travaille dans des conditions déplorables comme ce processus n'a pas été élargi, la société civile estime déjà que c'est un processus moribond.
Donc du coup, si je comprends bien, Claire Fage, il sera bien compliqué d'obtenir la levée totale de l'embargo sur les diamants centrafricains en imaginant, je dis bien en imaginant parce que c'est la seconde question de Narcisse, que l'embargo soit levé. Est-ce que les groupes qui contrôlent actuellement, les groupes armés qui contrôlent les mines, pourront continuer à exploiter librement le diamant?
Ils pourront le faire, mais après, il faudra que leur diamant soit légalisé, parce que dans le processus de Kimberley, il y a tout un tas de certificats qui doivent être obtenus jusqu'au scellé final qui permet l'exportation. Donc, obtiendront-ils ces scellés ces certificats? Rien n'est moins sûr. Donc, en fait, c'est vraiment, comment dirais-je, une hypothèse assez...
improbable.
Assez improbable. Ce qui est sûr, c'est que le commerce du diamant va continuer, qu'il soit légal ou illégal. Ce que la Centrafrique, parce que la Centrafrique est demandeuse, et la Russie l'a appuyé dans ce sens, c'est que finalement, la légalisation des exportations de diamants accompagne la reprise de la souveraineté des autorités de Bangui sur l'intégralité du territoire. Et en cela, les autorités de Bangui sont soutenues par les troupes russes. Il y a des troupes russes, par exemple, dans la zone est, où d'ailleurs des groupes d'exploitation minière russes ont des mines.
Alors, on a peut-être en partie répondu à la dernière question que souhaitait poser Narcisse. Je vous ai interrompu tout à l'heure, Narcisse.
Oui, la dernière question consiste à savoir comment expliquer l'intérêt de la Russie pour cette légalisation.
Alors, il y a un intérêt politique, on l'a dit.
Que cherche la Russie, politiquement?
Oui. Parce que financièrement, même si l'Alobay Invest, qui est un groupe proche de Vladimir Poutine, a quelques mines dans les régions qui ne sont pas encore légalisées, on peut se dire que ça servirait quand même les intérêts de certains. Bon, la Russie, c'est Alrosa, c'est le numéro un mondial du diamant. La Russie et Alrosa pourraient s'intéresser à la Centrafrique qui produit seulement 0,1% de la production mondiale de diamants? Donc, ce n'est pas financier, c'est vraiment politique. La Russie est en train d'étendre, sa toile en Afrique. On l'a vu récemment. Donc, c'est un soutien aux autorités de Bangui avant tout, qui rêverait que tout le territoire centrafricain soit libéré de cet embargo et que l'argent du diamant entre enfin dans les caisses de l'État légalement.
L'analyse de Claire Fage, spécialiste des matières premières à RFI. Narcisse, a-t-on répondu à l'ensemble de vos questions?
Merci Juan, je suis totalement satisfait de tous les éléments de réponse, je suis satisfait.
Eh bien Claire Fage est ravie de votre satisfaction.
Merci Narcisse, à bientôt.
Allez, bonne journée à tous les deux, il est 9h19 ici à Paris, 33 9 693 693 70. J'ai demandé à Léonard Vincent, journaliste au service Afrique de RFI, de nous rejoindre ce matin. Bonjour Léonard.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Spécialiste de la Corne de l'Afrique, oui. Spécialiste de l'Éthiopie, on a reçu justement des questions concernant l'Éthiopie avec ce référendum qui s'est tenu mercredi. Taïrou, soyez le bienvenu.
Merci, bonjour à vous Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes au Mali, nous vous écoutons avec Léonard Vincent.
En Éthiopie, les nationalistes Sidama réclament la création de leur province ethnique depuis des décennies. Ce mercredi a eu lieu un référendum. J'ai deux questions à ce sujet. Pourquoi cette région, en particulier, demande-t-elle à être reconnue comme nation?
Alors, on va déjà répondre avec Léonard Vincent, les Sidama, qui attendent encore à l'heure actuelle les résultats de ce référendum d'autodétermination. Comment expliquer justement la volonté des Sidama à avoir leur propre nation ? Alors d'abord, parce que comme tous les peuples d'Éthiopie, l'Éthiopie c'est une mosaïque de 80 nations, hein, il faut le rappeler. Les Sidama ont une histoire assez longue et singulière qu'il faut rappeler pour mieux comprendre la situation actuelle. Ils vivent au sud du pays, dans une région agricole où on cultive d'ailleurs un excellent café que vous connaissez peut-être, Juan, le Sidamo.
Non, mais ravi de le savoir.
leur histoire connue, hein, remonte au moins au 9e siècle, donc par exemple à l'époque de la fondation de l'Empire européen de Charlemagne. Ils parlent une langue couchitique qui est une famille de langues qui inclut le somali, l'afar et l'afano-romo par exemple. Au 18e et 19e siècle, ils sont enrôlés, on va dire, certains disent colonisés par l'expansionnisme des princes qui règnent sur les hauts plateaux de l'Abyssinie, des princes Amara qui cherchent à construire un empire. Ce sont ces princes, bientôt ces empereurs qui fondent l'Éthiopie qu'on connaît aujourd'hui. Bref, c'est évident, les Sidama sont une vraie nation avec sa langue, ses traditions et son drapeau. Et d'ailleurs, ils ont eu brièvement leur état dans la fédération éthiopienne juste après la chute du dictateur Mengistu en 1991. Il se trouve qu'en 1995, la région a été réorganisée par Addis Abeba et les Sidama ont été englobés dans une province multinationale. C'est la situation aujourd'hui, incluant une cinquantaine de communautés, la province dite des nations, nationalités et peuples du Sud.
Donc on le voit bien, il y a des arguments historiques, mais il y a aussi des arguments politiques.
Oui, bien sûr. D'abord, constituer un État Sidama, c'est accéder aux ressources financières de l'État fédéral. Politiquement, c'est obtenir une voix qui fait peser le poids des 4% de la population qu'il représente à Addis Abeba, un poids susceptible d'être un contre-pouvoir face aux autres grands peuples d'Éthiopie, les Amara, les Oromo, les Tigréens, qui sont 6% de la population totale. Ensuite, c'est pouvoir légiférer sur les impôts, les écoles, la police, la santé, et tout ça dans un contexte national où, depuis l'accession du Premier ministre Abiy Ahmed au pouvoir en 2018, les revendications nationalistes ont ressurgi partout dans la fédération avec leur lot de violence, parfois, y compris en pays Sidama. Au mois de juillet dernier, les autonomistes avaient menacé de proclamer l'indépendance unilatéralement si leur demande de référendum n'était pas entendue, et ça avait débouché sur des violences qui avaient fait plusieurs dizaines de morts et ce qui avait poussé l'État fédéral à placer la région sous le contrôle de l'armée. Donc pour résumer, les Sidama aujourd'hui veulent être en position de force pour affronter une tempête qui traverse actuellement l'Éthiopie.
Et ils étaient donc plus de 2 millions à voter mercredi lors de ce référendum. On attend les résultats peut-être dans la journée. Voilà, dans la journée. Vous aviez une autre question, Taïrou?
Oui, d'autres régions pourraient-elles aussi revendiquer le même statut?
Ah, c'est une bonne question. Vous disiez tout à l'heure en préambule, Léonard Vincent, que l'Éthiopie est une mosaïque de 80 nations. Est-ce que l'initiative des Sidama peut faire boule de neige?
Ben, ça a déjà commencé parce que l'article 47 alinéa 2 de la constitution éthiopienne prévoit que tout groupe national composant de la fédération peut demander l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, au moins une dizaine l'a déjà fait depuis l'initiative réussie des Sidama. Alors maintenant, ces demandes, il faut les comprendre dans ce contexte plus large dont je parlais, ce contexte de fragmentation progressive de l'Éthiopie depuis les bouleversements politiques provoqués par l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed. On a vu que la ligne nationaliste au sein de la direction militaire des Amara avait tenté un coup de force au début de l'été avec l'assassinat du président de la région et du chef d'état-major de l'armée. Des manifestations violentes initiées par le leader Oromo Jawar Mohamed ont montré le mois dernier que même au sein de la nation Oromo, dont Abiy Ahmed est la figure centrale, les dissensions existent. Et on a vu aussi, pas plus tard qu'hier, jeudi, que les Tigréens, qui ont été au pouvoir jusqu'en 2018, après avoir chassé Mengistu, ont refusé de rester au sein de la coalition multiethnique qui gouverne le pays. Et enfin, il faut dire, pour comprendre tout ça, avec un petit peu plus de recul, que l'année prochaine est une année électorale en Éthiopie. Les élections doivent avoir lieu en mai. Et que dans ce contexte, deux scénarios sont possibles, la recomposition ou la décomposition.
À suivre donc, Taïrou. A-t-on répondu à vos questions?
Oui, parfaitement.
Parfaitement.
Merci beaucoup.
Moi, j'ai appris plein de choses ce matin avec Léonard Vincent. Merci infiniment, Léonard.
Merci, Taïrou. Merci, Juan.
Et bonne journée à tous les deux. 9h24 à Paris. On a juste le temps de prendre une dernière question. Ce sera la dernière question de la semaine. Tierno, soyez le bienvenu.
Bonjour, Juan. C'est toujours un plaisir de commencer la journée avec vous.
Eh ben, écoutez, merci de votre fidélité. Ça nous va droit au cœur. Vous êtes à Conakry et vous avez des questions concernant cette conférence qui s'est tenue cette semaine à Berlin avec Angela Merkel et plusieurs chefs d'État africains.
Oui, effectivement. Et il y a 2 ans, l'Allemagne lançait le projet Compact with Africa. 12 chefs d'État africains se sont rencontrés cette semaine à Berlin pour faire le point. J'aimerais savoir quelles ont été les conséquences de ce programme sur les investissements en Afrique et a-t-il porté ses fruits?
Ah, bonne question. On va faire le point avec Pascal Thibault, correspondant de RFI à Berlin. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Juan, bonjour Thierno.
Merci d'être avec nous. Angela Merkel a donc déroulé le tapis rouge à 12 chefs d'État africains réunis à Berlin. Cette conférence avait pour but de faire le point sur cette initiative. On parlait à l'instant, Thierno, Compact with Africa, lancé il y a 2 ans par l'Allemagne. Peut-on rappeler en quelques mots quel est le but de ce projet Compact with Africa? Quel est le projet?
Oui. Oui, tout à fait. Alors, c'est un projet pour lequel l'Allemagne a joué un rôle prioritaire, mais c'est un programme du G20 que l'Allemagne avait lancé lorsqu'elle présidait la réunion des 20 pays les plus importants dans le monde, et un projet auquel sont associés également le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Donc, on le disait, 12 États africains participent à ce programme Compact with Africa, et le but, c'est une sorte de non-non-non, c'est-à-dire qu'on demande aux pays qui participent de faire des efforts en matière de transparence pour faciliter les investissements étrangers, les investissements donc particulièrement des pays du G20. C'est un peu l'idée qui est là derrière et donc pour lesquelles les deux conférences qui ont eu lieu l'année dernière et cette année à Berlin voulaient faire un point.
Donc 2 ans plus tard, quel bilan peut-on dresser, Pascal Thibault?
Alors le bilan reste mitigé, c'est ce que disent certains experts qui ont produit une étude, mais c'est aussi ce qu'a déclaré Angela Merkel en disant « certaines choses ont commencé à bouger, mais je ne peux pas dresser un tableau trop positif ». La chancelière a réclamé encore plus de transparence, notamment dans les dossiers économiques, pour favoriser l'attractivité de ces pays et attirer plus d'investisseurs étrangers. Les investissements des pays du G20 et allemands aussi n'ont pas foncièrement augmenté par rapport à la situation avant l'introduction de son programme, même si il faut aussi dire que le contexte mondial n'est pas forcément très facile. Les investissements sont plus importants dans le secteur des énergétiques, mais en ce qui concerne les infrastructures, ça reste encore difficile pour les investisseurs étrangers de prendre pied sur ces marchés.
Ouais, l'insécurité qui freine en quelque sorte les entreprises allemandes à investir massivement sur le continent africain. C'est ce qu'on peut retenir finalement de cette rencontre ces jours-ci à Berlin.
Oui, effectivement, ça reste encore le marché africain dans sa globalité. Au-delà de ces 12 États, ça reste encore un marché relativement peu important pour les entreprises allemandes, malgré le poids économique de ce pays, puisque l'ensemble de ce marché représente à peu près autant en termes d'exportation que la Hongrie. Donc ça relativise quand même beaucoup. 800 entreprises allemandes sont présentes sur les marchés africains et 5% seulement des autres entreprises, et il y en a quelques milliers d'autres, se déclarent d'après un sondage intéressés, donc on voit qu'il y a encore beaucoup de scepticisme et ces investissements se concentrent surtout sur certains États comme l'Égypte, l'Éthiopie, le Maroc ou le Ghana. Alors on veut essayer du côté public de faciliter les choses et notamment par exemple du côté allemand, favoriser l'accès à des crédits. C'est pas toujours évident de convaincre les banques lorsqu'on a besoin d'argent frais pour investir dans ces pays. Il y a notamment des prêts qui vont être mis à disposition avec un soutien public, avec des taux fixes qui devraient faciliter les choses pour notamment les PME allemandes qui restent encore très prudentes.
Pascal Thibault, bonne journée à Berlin. Merci d'avoir été avec nous. Thierno, merci de votre fidélité. Je m'excuse pour Mossadou. Hein, on avait prévu de le prendre ce matin. Mossadou, qui avait des questions à nous poser sur les élections législatives du 12 décembre au Royaume-Uni. Mossadou, vous avez ma parole. On vous rappelle dès le début de la semaine prochaine. On a le temps. Hein, les élections législatives anticipées, ce sera le 12 décembre. Donc, on a encore devant nous 3 semaines. Merci à tous de votre fidélité. Il me reste une petite minute. Le temps de vous signaler que mardi, vous pourrez dialoguer avec Bénédicte Savoie, historienne de l'art. Rappelez-vous, il y a 1 an, quasiment jour pour jour, avec Felwine Sarr, elle a remis au président Macron un rapport sur la restitution du patrimoine africain
pillées pendant la colonisation. Eh bien, un an après, quelles sont les avancées? Comment ces œuvres d'art seront-elles rapatriées dans leur pays d'origine? Quels défis attendent les musées africains qui exposeront ces trésors? Vos questions, vos réactions, mardi, ce sera en direct sur RFI. Et d'ici là, évidemment, vous pouvez nous appeler. On prend en note vos questions. Vous les postez sur Facebook. 33 9 693 693 70. À suivre le journal avec François Mazet. Et tout de suite après, évidemment, la Libre Antenne. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.